Bonjour à vous toutes et vous tous. Clotilde Sey au micro de Canal M pour vous présenter l'émission Le National. Vous savez que c'est une émission qui vous présente, vous représente des sujets d'intérêt pour tous les francophones au Québec et au Canada. Des sujets que vous avez peut-être déjà entendus dans la semaine sur nos ondes. Alors on commence avec Accès Libre, ça a été présenté le 4 décembre, vous savez que c'est l'émission qui est animée par Benoît Racette. Il nous propose à ce moment-ci une entrevue avec Jérôme Bobin, qui est directeur de Handicap International Canada, qui fait le point sur les 20 ans du traité d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles.
C'est aujourd'hui que nous célébrons la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Donc, ce traité, voire ce moment historique, a été très associé à Lord Axworthy de l'ancien gouvernement libéral au fédéral, mais aussi, rappelons-le, c'est très important, au nécessaire organisme Handicap International Canada. Donc, nous avons avec nous Jérôme Bobin, qui est directeur de l'organisme et qui est en direct de la capitale canadienne. Bonjour, Jérôme.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Merci d'être là. En fait, c'est une journée assez déterminante, non seulement pour votre organisme, mais pour le Canada, mais aussi pour tout le monde, j'oserais dire. Vous êtes à Ottawa pour les 20 ans de la Convention d'Ottawa, c'est bien ça?
Oui, oui, en effet. D'ailleurs, je m'excuse pour le son. Le son n'est peut-être pas très bon parce qu'on est en effet à une conférence qui vise à célébrer les 20 ans de ce traité, donc ce traité qui a été ouvert à la signature en 1997, ici à Ottawa, et qui a été une vraie victoire contre les armes, contre la barbarie des armes qui faisait énormément de victimes à travers la planète à cette époque, et qui est vraiment une initiative conjointe du gouvernement canadien de l'époque et de la société civile internationale, dont Handicap International, mais d'autres organisations humanitaires aussi.
Mais il faut quand même vous remercier. Rappelons que c'est une campagne déterminante, très importante pour votre organisation. Bravo, je dois vous dire, vous êtes là pas pour rien. Vous êtes nécessaire, bravo.
Merci. Il faut dire qu'on a gagné ce combat contre les mines antipersonnelles avec l'appui de la population, en fait, de tous les pays dans lesquels on intervient. Parce qu'à l'époque, 20 ans en arrière, 20, 25 ans en arrière, on a réussi à mobiliser les gens pour qu'ils s'engagent et qu'ils demandent à leurs États, à leurs dirigeants politiques, d'interdire ces armes qui faisaient à l'époque près de 30 000 victimes par année.
Ah oui, c'est très important, il faut le savoir. Puis vous avez réussi, évidemment, le gouvernement canadien, les Nations Unies éventuellement, à rallier 160 pays. Ils se sont engagés dans ce traité qui proposait quoi, en fait, à l'époque? Mais encore aujourd'hui?
Alors, il est très simple. Hein. Il propose tout simplement d'interdire la fabrication, l'usage, l'utilisation, le commerce des mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles, c'est des petits explosifs que beaucoup de pays dans le passé ont utilisés, ont mis dans les territoires pour éviter l'accès ou pour éviter de fuir d'un territoire. Et puis, à une époque, c'était devenu tellement un fléau qu'une victime toutes les 20 minutes explosait sur ces armes-là. Et puis, le principe de ces armes, c'est que ça ne tue pas. Ça fait des personnes amputées et donc des personnes nouvellement handicapées. Et donc, ça fait peser tout un travail et des soins de santé, des soins d'accompagnement sociaux importants sur la société qui est touchée par ces mines antipersonnelles.
Mais avouons quand même que vous êtes contre les bombardements de manière générale, mais évidemment, les mines antipersonnelles, comme vous le dites, ont causé du handicap partout dans le monde. Est-ce que le Canada, à l'époque... en fait, comment a réussi ce tour de force, le Canada, à l'époque?
Alors, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, vous le citiez tout à l'heure en introduction, Lloyd Axworthy, en fait, a décidé d'aller de l'avant, même si les gros États, les gros pays n'étaient pas, ne l'accompagnaient pas. Donc, il a plutôt pris une stratégie de réunir les petits et moyens États autour d'une vraie ambition de sauver des vies. Et puis, il s'est dit, ceux qui viendront nous joindre quand ils le pourront, quand ils le voudront. Et ça a été gagnant, parce que du coup, ça a fait que on a eu beaucoup d'États qui ont pu signer ce traité et qui l'ont rendu finalement efficace sur le terrain, parce qu'il y a eu très peu depuis d'utilisation de nouvelles mines antipersonnelles.
Donc ça a fonctionné en quelque sorte. Cette convention-là a réellement convaincu des pays de ne plus produire ou soutenir la production de mines antipersonnelles.
Oui, elle a tellement bien fonctionné que quelques années après, on a renouvelé l'opération avec le traité contre les sous-munitions. Donc, c'est un autre type d'arme. Les armes, vous parlez des bombardements explosifs, c'est un peu ça. C'est des obus qu'on tire par des avions ou qu'on tire de l'artillerie et qui libèrent tout un tas de petites bombes explosives et qui ont le même effet finalement que des mines antipersonnelles. Donc, le traité d'Ottawa a servi d'exemple aux autres traités de désarmement qui ont suivi derrière.
C'est heureux au moins que ça fait école. C'est sûr que vous le dites, là, le problème de toutes ces bombes, enfin, en général, les bombes, c'est un problème, mais le problème de toutes ces bombes, c'est que ça touche les sociétés civiles, les civils. Et je sais que vous menez actuellement des actions, notamment en Colombie. Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage, Jérôme Bobin?
Oui, ça fait depuis 1998 qu'on est actif en Colombie. Et d'ailleurs, justement, je suis aujourd'hui à Ottawa à la conférence avec une survivante de mine antipersonnelle qui nous vient de Colombie et qui est venue témoigner de sa situation. Donc, notre activité en Colombie, elle est diverse, mais elle se consacre sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Mm-hmm. Beaucoup les victimes de mine antipersonnelle, mais pas seulement. Et avec des soins de réadaptation physique, des réadaptations fonctionnelles, mais aussi l'accompagnement psychosocial,
ah,
des
oui.
groupes de parole pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leur nouvelle vie, finalement, et dans leur redonner les moyens de pouvoir participer comme il faut à la société.
Parce qu'on a souvent l'impression, tristement, que la participation sociale ou la réadaptation, j'oserais dire, vers la participation sociale, ça existe juste dans les pays riches, c'est un luxe, au fond.
Qu'on
le voit.
Considérer, mais dans tous les cas, c'est très important, y compris dans nos pays à nous d'intervention, les pays les plus pauvres ou les pays en développement. Mm-hmm. Et puis la Colombie, on a aussi un autre bel enjeu depuis 2 ans, c'est qu'on est devenu un acteur de déminage accrédité, c'est-à-dire qu'on démine les territoires en Colombie. On a des équipes de démineurs qui sont composées de Colombiens et de Colombiennes que l'on forme pour justement apprendre à déminer et puis pouvoir libérer leur territoire.
C'est important que vous le dites aussi parce que la Convention appelait les nations à être solidaires, là, à s'entraider aux besoins. Est-ce que c'est un peu au nom du Canada que vous le faites?
Ah ben, le déminage, non, parce qu'en fait, on n'a pas encore réussi à obtenir de financement du Canada pour du déminage en Colombie. Par contre, l'assistance aux victimes, oui, on a eu un gros projet d'assistance aux victimes qui a été financé par le Canada de 2012 à 2016. Et puis, vous savez, les financements comme ça qui nous viennent des États, ils viennent. Hein, de temps en temps, on a des périodes sans financement. Là, c'est une période sans financement, mais j'ai bon espoir que le gouvernement canadien se remobilise pour la Colombie avec Handicap International.
Bon, voilà. Et c'est peut-être une des questions que vous pourrez soulever, même si on célèbre, j'oserais dire, une victoire, notamment du Canada. Mais vous êtes là aussi pour rappeler qu'il y a d'autres besoins là, pour stopper les bombardements.
Oui, il y a énormément de besoins parce que malheureusement, comme vous le dites, avec l'usage des bombardements en zone peuplée actuellement et les crises en Syrie, les crises au Yémen, en Irak, on a une recrudescence du nombre de victimes et ces victimes-là, que ce soit de mines antipersonnelles, de sous-munitions ou d'armes explosives, finalement, elles ont les mêmes besoins.
Oui.
Elles sont en situation de handicap, elles ont besoin des soins de réadaptation, des soins d'accompagnement psychosociaux, des soins d'insertion socio-économique aussi pour retrouver un boulot. Donc c'est les mêmes besoins et donc le travail est malheureusement pas prêt de se terminer vu la situation du monde actuellement.
Oui, non, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, cette campagne que vous menez nous le rappelle. Il n'y a pas seulement que les gouvernements qui doivent agir ou faire pression. Le public aussi est appelé. Vous proposez d'ailleurs de signer une pétition actuellement. Expliquez-nous ça en quelques instants.
Oui, cette pétition, c'est dans la suite logique de notre combat contre les mines antipersonnelles et les sous-munitions. C'est une pétition qu'on déploie dans plusieurs pays où intervient Handicap International et qui vise à être remise l'année prochaine aux Nations Unies pour demander l'arrêt des bombardements dans les zones peuplées, donc très rapidement. Actuellement, on voit des usages de bombes dans des villes et donc au-delà de faire des blessés, ça détruit aussi les hôpitaux, les écoles, les marchés, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est ce qu'on demande. C'est une pétition internationale et pour l'instant, on a recueilli 400 000 signatures. Ce n'est pas des signatures canadiennes, c'est
une
signature internationale. Oui, mondiale. Et l'objectif est d'en recueillir 1 million pour pouvoir les remettre l'année prochaine aux Nations Unies.
Et on vous soutient là-dedans. Rappelons qu'il est possible d'aller signer cette pétition sur petition.handicap-international.ca. Je veux seulement dire aussi que dans la petite page d'à côté, on peut aller voir, continuer de suivre l'action d'Handicap International sur handicap-international.ca/fr. Jérôme Bobin, directeur d'Handicap International Canada, merci beaucoup.
Merci à vous et puis très belle célébration de la Journée des personnes handicapées aussi. Maintenant.
Oui, il faut célébrer nos gains et ces gains-là, c'est grâce à vous, entre autres. Alors, merci encore.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Un jour j'aurai des verges dures et des varices, des amertumes et des caprices, des poils qui poussent et qui blanchissent. Peut-être que je serai beaucoup plus ronde et arthritique, de caractère moins pacifique, plus en colère et sarcastique. Un jour j'aurai les seins à terre, le ventre mou, la peau ridée, des taches partout, l'air d'une grand-mère qui arrive.
Ça la vie. je peux vider mes lendemains et toujours croire que je détiens la vérité et mon destin et que je te tiens.
Et puis, dans le cadre de Aime la vie, cette émission à laquelle je participe aussi avec l'ami Kevin Breton, il y a eu vraiment une entrevue passionnante avec quelqu'un qui s'appelle Danny Cronstrom, et j'espère que je prononce bien son nom. Et c'était le 5 décembre dernier, et Danny Cronstrom qui expliquait à Kevin pourquoi il a décidé de faire le tour du monde pour l'autisme.
Je vais faire un petit peu d'auto-promotion, si vous me le permettez. Moi, à Canal M, je fais l'animation de Aime la vie, mais j'anime également un magazine de sport qui s'appelle Au Signal. Et vendredi dernier, le 1er décembre, était diffusée une émission qui s'appelait dont le titre était Autisme et Karaté. Puis c'était vraiment une émission super extraordinaire. J'ai vraiment eu la chance de m'entraîner avec André Langevin et avec Marc-Antoine Bourget, qui est lui-même autiste. Puis je vous invite à aller réécouter l'émission sur vusevoix.com. Si jamais, même si le sport ne vous intéresse pas, si vous êtes intéressé au monde de l'autisme, ça devrait vous intéresser. C'est pourquoi je vous dis ça, c'est pas juste pour me plugger, là. C'est parce qu'on a également en studio aujourd'hui, comme je le disais en début d'émission, Danny Cronstrom qui s'apprête à partir sur un grand périple le 4 janvier prochain en collaboration avec la Fédération québécoise de l'autisme. Tout d'abord, bien bonjour Danny.
Bien bonjour.
Excité, là, c'est à un mois ou un petit peu moins d'un mois avant le grand départ.
Absolument, donc des belles émotions que je vis en ce moment. Comment ça,
le temps des fêtes va être particulièrement éprouvant parce que là on va dire salut à la famille, mais on sait qu'on va peut-être pas la revoir avant un bon moment. Là.
Effectivement, c'est vice versa, autant que moi je vais vivre des émotions qu'eux autres aussi, mais je vais être en direct sur Internet avec eux, donc via Skype pour les Facebook de ce monde, donc ça va me permettre de briser cette solitude-là.
Ben oui, c'est d'ailleurs la vocation de ce voyage que vous entreprenez. J'en ai parlé en introduction au début d'émission. Les personnes autistes, pour eux, la routine, c'est très important. D'ailleurs, on en parlait là, lors de l'émission d'Au Signal. Et les transitions, ça peut être problématique chez eux. C'est des gens qui aiment bien avoir un ordre de journée claire et qui se répète. Mm-hmm. Quand on est en voyage, c'est pas souvent ça. Les voyages, souvent, c'est synonyme d'imprévu. Ce qui fait en sorte que pour des personnes autistes, ça peut être inaccessible, le voyage, carrément.
Effectivement, c'est sûr que chaque personne le vit de manière différente. Donc, moi, de mon côté, il y a un membre de ma famille qui est autiste. Donc, je sais que pour cette personne-là, qui est différent pour d'autres, pourront pas nécessairement voyager. Donc, moi, j'ai le goût de vivre, démocratiser mon tour du monde que je m'apprête à faire en janvier pour que les gens puissent le voir. Mm-hmm. C'est sûr que voyager, ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime voyager, puis c'est bien correct, mm-hmm. mais des gens qui auraient aimé le faire.
C'est possible, puis vous faites bien de le mentionner parce que c'est effectivement un spectre. Quand on parle d'un trouble du spectre mm-hmm. de l'autisme, c'est que c'est très large. Mm-hmm. On va pas vivre ça différemment. Et certaines personnes pour qui la routine va être plus importante que d'autres, mais pour certains, ça va être très important. Et aussi pour eux, ils vont avoir la piqûre des voyages et ça va être difficile pour eux d'en profiter. Donc là, vous partez au Sri Lanka le 4 janvier prochain.
Oui, le 7, effectivement.
Le 7.
Oui.
Et vous avez un partenariat avec la Fédération québécoise de l'autisme qui vont repartager vos capsules en direct sur Facebook. Parce que vous voulez leur faire vivre, en fait, un peu l'émotion que vous allez vivre vous-même en partant à l'extérieur?
Oui, effectivement. Donc, via ma page personnelle Facebook, je vais faire des vidéos en direct pour dire exactement où je suis, pour faire vivre aux gens, qu'ils soient autistes ou non, faire vivre ces émotions-là que je vis en même temps qu'eux autres. Donc, c'est pour moi, c'est un beau défi.
Une idée que vous avez eue parce qu'un membre de votre famille a eu un diagnostic de TSA. Lui, est-ce qu'il est enchanté par cette idée-là de pouvoir vous suivre via Facebook?
Absolument. Donc, en plus, cette personne-là va pouvoir m'appuyer de multitude de façons. Donc, ça va être des beaux échanges qu'on va pouvoir avoir l'un et l'autre.
La Fédération québécoise de l'autisme, elle, est-ce qu'elle était enchantée par cette idée-là?
Je pense que c'est sûr que c'est eux qui pourraient le verbaliser, mais moi, ce que j'ai senti, c'est que ça fut comme un coup de cœur. Donc, j'en ai parlé dès le début, j'ai senti une très grande ouverture. Puis en plus, utiliser les réseaux sociaux, c'est quand même assez up-to-date, donc pouvoir briser mm-hmm. cette situation-là avec les réseaux sociaux.
Puis, ben, tu sais, c'est quand même possible de vivre le voyage par extension via quelqu'un ou par exemple, des documentaires, des films.
Mmh, absolument.
Sauf que la particularité d'un Facebook Live, puis c'est pour ça que vous profitez de ça, puis vous les faites en direct plutôt que faire un montage après ça, c'est que ça permet vraiment de vivre le voyage dans le moment présent.
Effectivement, puis c'est sûr qu'un documentaire à la télévision, c'est super bien, mais c'est souvent liché aussi. Moi, de mon côté, on va vraiment voir davantage qu'est-ce qu'une ruelle à New Delhi ou, je sais pas, un temple méconnu du Népal. Donc, c'est vraiment ce que j'ai goût de faire vivre. C'est sûr que la seule chose qui va manquer, c'est les odeurs, mais au moins, il va y avoir le son, le visuel, etc., etc. Donc, les sens vont quand même être interpellés.
Vous prévoyez en faire à quelle fréquence de ces petits lives Facebook?
Ça va vraiment dépendre de la connexion Internet. Il y a certains pays que j'ai
regardé. C'est ma prochaine question.
C'est un peu plus complexe. Ça va vraiment aller selon l'accès à Internet que je peux avoir. Idéalement, dans les moments qui sont peut-être plus propices. C'est quand je vais visiter le Taj Mahal, mais pour moi, c'est dans la logique des choses. Ou voir l'Everest, par exemple. Donc, pour moi, c'est la normalité des choses.
Je me doute que vous êtes un habitué des Facebook Live parce que vous êtes vous-même en train d'en faire un en ce moment. C'est intéressant parce que bon, l'émission Aime la vie, elle n'est pas enregistrée en direct, donc on a une petite primeur via les médias sociaux. Et les médias sociaux, c'est votre spécialité, c'est même votre profession là.
Effectivement, donc moi, dans ma vie, je suis spécialiste des médias sociaux et aussi du référencement web. Donc, positionner un site Internet sur Google, il y a un algorithme, une astuce, des astuces derrière tout ça. Donc, c'est ma vie que je fais de façon fréquente.
J'ai profité du fait qu'on a un expert en référencement web parce que souvent, on entend toutes sortes de trucs sur l'autisme. Il y a plusieurs mythes autour de tout ça. Puis, j'entends souvent des parents dire que c'est difficile pour eux d'aller chercher les véritables informations, puis ils ne savent pas trop se retrouver dans le fouillis du web. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à tout ce qui sort dans Google sur la première page?
En règle générale, j'aurais tendance à dire que oui. Tout dépend des mots-clés qu'on a verbalisés et écrits, bien entendu. Mais sinon, on peut se référer à des sites crédibles comme la Fédération, où c'est que là, il y a du contenu à jour, Puis il y a des gens qui peuvent aussi répondre probablement via leurs réseaux sociaux.
Eux font un tri, en fait, de l'information validée scientifiquement.
Ah, effectivement, oui, effectivement.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel, justement, du web, du référencement pour aider les personnes autistes, en dehors là, de votre formidable initiative, mais en dehors de ça, il y a aussi un potentiel pour informer les personnes autistes et leurs proches des véritables ressources à leur disposition?
Définitivement, parce qu'on peut dire n'importe quoi en étant des faux spécialistes d'un domaine. Ouais. Donc, il faut nettoyer un petit peu cette portion-là. Donc, effectivement, le référencement web peut être porteur dans la mesure que c'est bien fait.
Mm-hmm. Ouais, c'est dans l'air du temps avec les fameuses fake news, de faire attention à ce qu'on lit. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais en terminant, est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée de l'itinéraire que vous allez suivre, puis combien de temps que ça va durer, votre aventure?
Oui, donc environ 8 mois. C'est sûr, ça va dépendre de l'argent qu'il y a, bien entendu. Donc, ça va être du Sri Lanka jusqu'au Vietnam, en passant par le Laos, le Cambodge ou le Myanmar, par exemple.
Puis environ 8 mois, vous me dites.
Environ, effectivement.
Est-ce que vous avez déjà l'habitude de voyager beaucoup?
J'adore, ça fait partie de qui je suis depuis que je suis tout petit, que je rêve de faire mon tour du monde. Donc, je vais enfin vivre ce moment-là.
Ouais, puis est-ce que c'est une grande décision dans votre vie? Parce que là, j'imagine que vous aviez un emploi ici.
Oui.
Donc, vous quittez ça, c'est quand même une grande transition pour vous.
Un très bel emploi chez joblico.com, qui est un site de recherche d'emploi, où c'est que c'était extraordinaire, une belle famille et une belle culture. Donc oui, ça a été vraiment difficile de quitter mon emploi et surtout mon équipe aussi, du fait même. Donc effectivement, c'est un choix de vie.
Comment est-ce qu'on peut vous suivre à partir du 7 janvier, Danny?
Allez sur Facebook, cherchez Danny Kronstrom, K-R-O-N-S-T-R-O-M. Il y a un cas, donc vous pouvez me chercher. Je suis relativement facile à trouver sur Internet. Donc, cherchez-moi, vous allez me trouver. Je vais pouvoir, à partir du 7, me voir sur les petites capsules.
Puis vous bloguez en plus sur le voyage depuis assez longtemps, vous.
Effectivement, donc j'ai un guide touristique qui s'appelle le Guide Voyageur, où c'est qu'on parcourt à travers le monde les meilleurs établissements, des astuces, des trucs, etc.
Pour la communauté LGBT, c'est
effectivement,
ça?
Effectivement, tout à fait.
Super intéressant. Ouais. Bien évidemment, on va mettre les liens disponibles sur notre site internet visevoix.com et je suis certaine que notre responsable des communications, Christiane Campagnat, a déjà partagé votre live Facebook. Merci d'avoir pris le temps de faire un petit arrêt ici dans vos préparatifs en route vers le Sri Lanka et bien plus.
Ben merci à vous.
On vous souhaite beaucoup de succès, Danny, dans la poursuite de cette belle aventure.
C'est génial.
Intéressant, hein, je vous l'avais dit. Alors, restez des nôtres. Il y a une seconde partie à cette émission, Le National, que je vous présente dans quelques secondes. Le National, deuxième partie, toujours animée par Clotilde Seille, pour vous sur les ondes de Canal M. Dans l'émission que je connais bien, des livres plein les oreilles, l'émission du 23 novembre dernier, j'avais la chance de m'entretenir avec Jean Brière. Jean Brière est non-voyant, donc il utilise beaucoup les livres audio adaptés que nous présentons à l'émission des livres plein les oreilles. Et cette journée-là, il nous présentait Station Eleven d'Emily St. John Mandel. Bonjour Jean.
Bonjour Clotilde, comment allez-vous?
Mais je vais très bien, écoutez, vraiment, je peux pas... Je suis une femme comblée, satisfaite. Ça fait 3 semaines que je fête mon changement de décennie et ça me va très bien en fait, j'ai l'impression que...
Ah, c'est ça qui vous rend heureux, là.
Oui, tout le monde m'avait dit, oh, tu vas voir 60, c'est l'horreur. Mais ben, pas du tout, j'adore ça.
J'osais pas vous demander quelle décennie vous commenciez.
Ben, je suis passé de 30 à 40. Enfin, en fait, mais non, c'est ça. Bon, si nous arrêtions de parler de mon saint anniversaire, Jean, vous nous parlez aujourd'hui d'un livre que je voudrais que vous nous présentiez, s'il vous plaît.
Oui, un roman bouleversant qui s'appelle Station Eleven. Eleven, le chiffre 11 en anglais. Mm-hmm. Un roman de 424 pages. Qui a été écrit par une dame, Emily St. John Mandel, une dame de 38 ans. Hein. Et le roman a été publié, c'est très récent, 2016. Il est disponible à INCA.
OK, d'accord.
Et je précise que j'ai du goût parce que j'ai lu ce roman avant même qu'il soit promu. Il a reçu un titre de prix des libraires de 2017.
Ah oui, hein? OK, oui. D'accord.
L'auteur est venu le chercher au printemps.
OK. Oui. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup de nous faire découvrir. Alors, ce livre bouleversant, pourquoi?
Alors, c'est un roman de science-fiction, d'anticipation. Certains appellent ça un roman de dystopie là, qui imagine un avenir sombre pour l'humanité. Et c'est un roman canadien, comme on l'a mentionné. Bouleversant, j'y reviens un peu plus tard. Je vous décris brièvement l'histoire.
Oui.
C'est que dans ce roman, une épidémie de grippe foudroyante tue 99% de la population. Et en peu de temps, là, la civilisation telle qu'on la connaît s'effondre, disparaît. Les humains qui survivent sont pas chanceux parce qu'ils doivent composer avec une nature sauvage. Ils reviennent pratiquement à l'âge du cheval. Il y a plus de gouvernement, plus de technologie, plus rien, plus de médecins, plus d'électricité, de pétrole, etc. Alors, la vie redevient très, très...
sauvage, à l'état brut. À l'état brut.
Oui. Les gens doivent se débrouiller avec des vestiges de la civilisation, des objets, des véhicules automobiles, des véhicules de camions, de toutes sortes de trucs, mais plus rien ne roule. On les fait tirer par des chevaux. Et puis, 20 ans après la pandémie, bien, il y a des survivants qui se sont installés dans des petits villages, dans des hameaux. Et on suit une troupe de théâtre qui circule au travers de ces hameaux-là pour aller divertir un peu la population avec des pièces de théâtre de Shakespeare et un peu de musique avec tous des instruments acoustiques.
Oui.
On n'a plus d'électricité.
Construit avec les moyens du bord, sûrement.
Oui, des fois des vestiges du temps passé.
D'accord, les artefacts.
Les magasins, les infrastructures sont restées debout, mais en général, sont devenues inutilisables faute d'électricité. Hein.
Oui.
Alors, puis cette troupe de théâtre, il lui arrive toutes sortes de vicissitudes. C'est très, très intéressant. La vie des humains est devenue, elle est toujours possible, mais elle est très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, et elle est devenue très, très difficile. Les maladies sont souvent mortelles, faute de soins.
Bien sûr.
Et puis, évidemment, comme dans toute situation chaotique, ben, il s'installe un certain totalitarisme, une terreur causée par des bandes armées. Alors, c'est le Far West, c'est le retour du Far West tel qu'on l'a vu dans des films dans le passé. Alors,
c'est peut-être un petit peu, excusez-moi de vous interrompre, Jean, mais à l'image de vos derniers mots, je me disais, ça ressemble aussi quelque part à ce qui peut se passer en ce moment ici, alors que nous sommes encore en pleine civilisation, électrifiée, numérique, voilà. En tout cas, je ne sais pas si c'est voulu pour ça, mais... moi, je pense à ça tout de suite, parce que les cow-boys, hein, il y en a partout en ce moment dans la vie. Hein. Alors, qu'est-ce qui... Vous avez ouvert...
Mon expression bouleversante.
Oui, c'est ça.
C'est très bouleversant parce que ce roman-là est justement renversant de réalisme. Souvent, dans des romans de science-fiction, dans des romans qui imaginent des catastrophes, les catastrophes sont causées par les humains ou par des méchants qui ourdissent des complots extrêmement compliqués. Là, c'est tout simple. Un virus dangereux, un virus inconnu des humains qu'on n'a pas vu venir et qu'on n'est pas capable de soigner. Ça tue la population. Les gens restent pris avec des infrastructures dont ils ne peuvent plus vraiment s'utiliser. Et ce qui est bouleversant, c'est que c'est plausible. Ça peut arriver.
Ça pourrait
arriver.
Oui,
c'est
ça fait froid dans le dos, hein, quand on sait que les scientifiques s'intéressent de près à la fonte des glaces qui font surgir ou ressurgir des virus qui étaient jusqu'à
qu'on
présent...
Qu'on pensait éradiquer.
Ben voilà, qu'on pensait être éradiqué, puis qui sont en train de ressortir. Alors, c'est pas... J'ai une question pour vous, Jean. Vous nous l'avez dit, c'est une œuvre de science-fiction. Les gens qui n'aiment pas la science-fiction, est-ce qu'ils pourraient malgré tout aimer ce livre? J'en entends déjà nous dire « Oui, mais moi, la science-fiction, j'aime pas ça. Ouais. » Mais moi, il me semble que ce bouquin-là, ça va au-delà quoi, de l'œuvre de la science-fiction. Ça va au-delà de, je sais pas, d'une ou... Non?
Vous savez, on le classe parmi science-fiction, mais c'est pas tout à fait le cas.
Ah, ouais,
c'est plus
ça.
Anticipation. parce qu'il n'y a pas vraiment de science assommante là-dedans, puis d'explications complexes. Ouais. C'est ça qui est fantastique, c'est que souvent on imagine des scénarios extrêmement complexes et extrêmement invraisemblables, alors que celui-là, il est vraiment très, malgré tout, très possible. Puis on assiste vraiment dans des flashbacks à la chute de cette civilisation-là telle que... Et c'est très, très émouvant. Ah, c'est très émouvant. C'est palpitant, ça se lit bien, c'est bien écrit. La jeune auteure, je pense que je peux y établir une filiation un peu avec Margaret Atwood, j'ai lu il n'y a pas longtemps.
Mais oui, parce que quand on pense à La Servante écarlate, c'est quand même aussi... elle écrit en anglais et c'est traduit?
C'est très bien traduit. C'est un très, très beau roman. Et je pense que c'est une auteure qui a de l'avenir. Je vais surveiller son nom dans les prochaines années.
Mandel, M-A-N-D-E-L, hein?
Oui, Mandel, exactement. Okay.
Quelques critiques que j'ai glanées à droite et à gauche dans le Figaro. On écrit « L'auteure canadienne a imaginé un monde fantôme, donc cauchemardesque, hein, vous l'avez dit, peuplé de silhouettes vacillantes et de prédateurs illuminés. » dans Télérama, on disait « Dans ce roman post-apocalyptique, la chute de l'humanité se fait tout en douceur, l'occasion d'un bel hymne à l'art qui nous sauvera tous. » Parce que le théâtre, et notamment le roi Lear de Shakespeare, c'est un personnage central dans ce livre-là, Jean Brière.
Tout à fait. L'histoire commence justement lors d'une représentation de cette pièce de théâtre de Shakespeare. Et puis tout au long, on y fait référence. Il faut être très bien éveillé quand on écoute ce roman, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de remontées dans le temps, de retours. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit. Et puis il y a des passages savoureux, des passages... fantastique. On voit que les gens qui ont survécu, ceux qui se souviennent du temps passé, ils vivent dans cette nostalgie, dans cette mémoire du temps passé. Oui. Et les plus jeunes, parce que l'action principale se déroule 20 ans après la catastrophe, eux, on leur parle du temps passé qu'ils n'ont pas connu.
C'est
vraiment fascinant.
Oui, exactement, parce que là, les mômes qui n'ont jamais connu, ne serait-ce que l'électrification, c'est quand même... C'est quand même quelque chose, quoi.
Oui, les gouvernements, la police,
l'organisation sociale.
Voilà, c'est ça. Oui. Et puis l'art comme mécanisme de survie. Hein, dans Le Devoir, je ne sais plus quel journaliste, quel critique avait écrit cette phrase que j'avais trouvée très belle. Puis il disait, c'est peut-être ce qui subsiste de plus fort dans Station Eleven. Juste pour finir, Station Eleven, ça correspond à quoi exactement? C'est un endroit de vie où se retrouvent tous ces gens-là?
Non, c'est une bande dessinée qu'avait écrit un personnage et qui a survécu, qui s'est transmis dans les années après la catastrophe. Et on y fait, les gens qui n'ont pas connu le contexte de la bande dessinée, ils font des interprétations, comme aujourd'hui on fait des interprétations à partir d'artefacts préhistoriques.
Vraiment formidable. J'ai très envie de me plonger dans ce livre-là, Jean. J'espère que c'est la même chose pour nos auditeurs. Je rappelle le titre, Station Eleven, Eleven comme 11, d'Emily St. John, comme ça se prononce, comme John le prénom ou la ville, Mandel, M-A-N-D-E-L. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir parlé avec tant d'éloquence de ce bouquin-là. Vraiment, ça donne envie.
Ça a été un plaisir.
J'ai planté un chêne au bout de mon champ, ce fut ma semaine, perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? L'amour et la haine, ce sont mes enfants, et ce sont mes chaînes, perdrai-je ma peine? L'amour et la haine, ce sont mes enfants, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? Le roi et la reine perdront leur manant, mais l'amour m'enchaîne, perdrai-je ma peine? Le roi et la reine perdront leur manant, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? Oh, serai capitaine sur mon
ciment. Tout en bois de chêne, perdrai-je ma peine? Serai capitaine sur mon bâtiment. Perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? Chêne au bout de mon champ, ce fut ma semaine. Perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? L'amour et la haine, ce sont mes enfants et ce sont mes chaînes. Perdrai-je ma peine? L'amour et la haine, ce sont mes enfants. Perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? Le roi et la reine perdront leur manant, mais l'amour m'enchaîne. Perdrai-je ma peine? Le roi et la reine perdront leur manant. Perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? Moi serai capitaine sur mon bâtiment, tout en bois de chêne. Perdrai-je ma peine? Serai capitaine sur mon bâtiment. Perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps?
C'était dans les paractualités du 4 décembre, les paractualités, cette émission qui est animée, hein, vous le savez, par Hélène Denis. Elle le recevait, Sarah Rouleau, qui est responsable communication marketing événements spéciaux chez Inca Québec et qui nous a présenté les gagnants du concours pan-canadien de création littéraire Braille de l'Institut national canadien pour les aveugles, ainsi que les activités de Noël de Inca Québec. On réécoute ça.
Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Sarah Rouleau, qu'on a joint. Bonjour, Madame Rouleau.
Bonjour.
Responsable communication, marketing et événements spéciaux de l'INCA Québec. Alors, on parle avec vous d'un événement spécial, le concours pan-canadien de création littéraire Braille de l'Institut national canadien pour les aveugles et aussi la fête de Noël de l'INCA, si on a du temps.
Oui, exactement.
Mais on va en prendre. Alors, Madame Rouleau, très heureuse, je trouve que l'idée de créer un concours de création littéraire en braille est vraiment une excellente idée. D'abord, ça montre l'importance du braille et puis ensuite, ça prouve qu'il y avait un besoin de la part de personnes ayant des limitations visuelles.
Oui, exactement. Donc, nous, comme vous l'avez dit, là, depuis 1990, on organise ce concours-là. Puis c'était vraiment pour encourager les jeunes là, à utiliser le braille, mais aussi à aimer l'écriture, là, même s'ils vivent avec une perte de vision. Puis c'est intéressant parce que c'est un concours pan-canadien, donc ça ajoute un peu là,
de piquant.
Challenge. De piquant,
ouais.
Ben oui. Puis c'est encore une plus grande fierté là, quand les jeunes gagnent. Donc, c'est un concours de création littéraire pour les enfants avec du primaire, du secondaire et début cégep. Bon, parce que dans le reste du Canada, là, c'est de maternelle à 12e année. Donc, nous, ça donne à peu près là, jusqu'à début cégep.
Oui.
Et le concours finit normalement au printemps, donc en mai, mais c'est maintenant là, qu'on a su les gagnants et que les jeunes reçoivent leur certificat.
Alors, avant de parler des gagnants, en quoi consiste le concours de création littéraire Braille de l'INCA?
Oui, en fait, on invite les enfants à écrire soit un poème ou un récit. Mm-hmm. Et on va bien sûr là, analyser bon leur histoire, leur créativité, mais aussi le braille. Parce que, comme je l'ai dit, le but, là, c'est de les encourager à utiliser le braille parce que le braille, c'est la meilleure façon là, pour les enfants aveugles de développer leurs compétences en orthographe, en grammaire et en ponctuation. On sait que de plus en plus, là, avec les livres audio ou les ordinateurs avec la synthèse vocale...
Délaisse le braille?
Le braille peut être délaissé, mais ouais. Ça n'amène pas la même chose.
Mais
parce
non.
que quand on entend quelque chose, on ne voit pas comment c'est écrit. On ne peut pas voir la grammaire, justement, les ponctuations. Fait que pour écrire par soi-même et lire, puis avoir plus tard une plus grande autonomie de pensée ou même être plus autonome pour travailler... le braille est encore très important. Là. Malgré toute l'avancée de la technologie, on veut continuer d'encourager le braille. Donc, c'est ça notre concours. Là.
Oui, d'accord. Et donc, qui composait le jury cette année?
Cette année, c'était Mme Mireille Messier qui était la juge. Donc, on avait seulement une juge. Faut dire, par contre, qu'on avait des correcteurs pour corriger le braille, parce que sur 100 points, la moitié que c'est vraiment le braille. Donc, le braille prend beaucoup d'importance. Donc, des correcteurs qui s'assurent que le braille est bien tapé, qu'il est bien utilisé. Et ensuite, c'était Mme Mireille Messier qui regardait le plus le côté créativité-histoire. Cette dame-là, elle habite à Toronto, mais elle écrit en français et en anglais. Ce qui la positionnait bien là, pour analyser toutes les histoires reçues au Canada. Puis elle écrit pour les jeunes, donc depuis 1999. Elle a aussi là, été scénariste, elle a écrit une vingtaine de romans.
Elle a une connaissance et une expérience.
Pour les jeunes.
Oui. Et qui sont les jeunes gagnants du concours 2017?
Bien, en fait, là, je ne peux pas toutes vous dire une gagnante, mais...
Il y en a beaucoup?
On a 24 gagnants à travers le Canada. Faut dire que ça se divise en quatre groupes. Donc, de maternelle à deuxième année, troisième à cinquième année, sixième à secondaire 2, secondaire 3 à début cégep.
Mm-hmm.
Donc, toutes ces catégories-là ont des prix. Et ça se divise aussi là, en poésie. Donc, il y a des prix pour ceux qui ont fait des poèmes et des prix pour ceux qui ont écrit plus des récits ou des essais. Et au Québec, cette année, on a eu 6 gagnants. Donc, 6 gagnants sur 24. On est très fiers.
Bravo!
on voulait là, vraiment que les gens participent. Puis finalement, ben, ils ont été récompensés.
Et qui sont ces 6 gagnants?
Oui, on a James Daniel Léonard, qui a gagné un premier prix pour son histoire. Hélène Assimaz, premier prix pour son poème. Ensuite, Marie-Pierre Brousseau, Noémie Turcotte-York, Ethel Wedakor, Maya Chabot, Mas, Evan Couturier-Thompson, Cédric Desrosiers et Iliane Doucet. En fait, Evan, Cédric et Iliane n'ont pas gagné de prix, mais ont eu une mention honorable.
Bon,
donc,
alors,
on a 6 gagnants plus 3 mentions honorables.
Oui, c'est digne de mention. Et qu'est-ce que remportent tous les gagnants?
Oui, en fait, ils gagnent entre 25 et 150 $. Donc, c'est un beau petit cadeau. Et c'est selon leur âge et la position. Donc, premier prix va gagner plus que troisième prix. Et plus ils sont vieux, plus le montant est important. Comme ça, pour eux, ça représente plus aussi. Là, un petit bout de chou, il n'y a pas besoin de 150 $. Donc, c'est pour ça. Donc, on a entre 25 et 150 $ par gagnant. Et ils reçoivent un certificat en braille, qui est écrit, imprimé, mais aussi en braille, qu'ils puissent le lire.
Ils vont recevoir les cadeaux, les prix. Quand?
Bien, c'est ça. En fait, ceux qui sont dans la grande région de Montréal, donc c'est en lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure, on va les recevoir à notre 4 à 7 de Noël et on va leur remettre là, devant tous les invités.
Ah, bien, c'est merveilleux. Pendant la fête, donc, le 4 à 7 qui a lieu le 15 décembre.
Le 14, oui.
Ah, le 14?
Oui,
d'accord.
Le 14 décembre.
J'ai ici un 5 à 7 le 15. Alors, c'est plutôt un 4 à 7 le 14. D'accord. Et puis, si les auditeurs de Canal M veulent participer à la fête, est-ce qu'ils sont les bienvenus?
Bien, oui. C'est vraiment ouvert à tous. Ça se passe dans nos futurs locaux. Donc, INCA va déménager. On n'est pas encore aménagé, mais on voulait vous faire découvrir la place où on sera situé pour mieux accueillir tout le monde.
Alors, votre adresse en terminant, Madame Rouleau?
Ça va être au 2065 rue Parthenay. Et c'est la porte de gauche, mais on va mettre des ballons, on va être bien visible. C'est gratuit, il va y avoir des petites bouchées, des prix, et vous êtes tous invités.
Bon, mais c'est bien gentil. 14 décembre, c'est un 4 à 7 pour découvrir vos nouveaux locaux et rencontrer aussi les gagnants à qui on dit bravo.
Oui,
merci,
vraiment.
Merci Sarah Rouleau pour cette entrevue.
On vous attend au 2065 Parthenay le 14.
Merci et puis je vous souhaite une belle fête de Noël.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Et puis voici pour vous quelques sujets qui ont été traités dans le cadre des paractualités par Hélène Denis tout au long de la semaine. Service pour les enfants vivant avec un TSA dans la région de Campbellton. Également un règlement pour la largeur des trottoirs à Toronto. Une poursuite pour erreur médicale à Grand Sceau. Et plus d'équité et de transparence pour les crédits d'impôt réclamés par Autisme Canada.
Sur le site de radiocanada.ca, des services pour les enfants vivant avec le trouble du spectre de l'autisme, TSA et autres troubles du développement seront offerts en janvier dans la grande région de Campbellton. Ce centre est mis sur pied par Mélanie Parent et Marilyn Thibault, deux mères d'enfants vivant avec ce trouble du développement. Dès janvier, le centre Jeunesse Interaction accueillera une douzaine de jeunes âgés de 5 à 12 ans. Ces jeunes pourront prendre part aux activités du centre après les heures de classe ainsi que les samedis matins. Mélanie Parent précise qu'elles travailleront notamment les habiletés sociales des enfants pour qu'ils apprennent à jouer ensemble. On va offrir un service pour les aider à se développer du côté de la motricité fine, de la motricité globale et pour qu'ils aient plus d'attention, explique Mme Parent. La fille de Tina Parent profitera des services du nouveau centre. Ça va me donner la chance de prendre une pause parce qu'être maman d'une fille autiste sévère, ça demande beaucoup. Les partenaires prévoient déjà un agrandissement du centre au printemps pour accommoder une clientèle provenant d'autres groupes d'âge. Ce texte est rédigé d'après un reportage de Serge Bouchard. Des militants pour l'accessibilité tentent de convaincre les conseillers municipaux de Toronto d'adopter un règlement qui exigerait que tous les trottoirs de la ville fassent au moins 2,1 mètres de largeur. C'est une nouvelle tirée du site radiocanada.ca. Selon la loi ontarienne sur l'accessibilité pour les personnes handicapées, tous les trottoirs de la province doivent faire au moins 1,5 mètre de largeur. Pour de nombreuses artères du centre-ville de Toronto, c'est bien trop étroit, affirme Adam Cohoun, qui éprouve souvent des difficultés à s'y déplacer avec son triporteur électrique. L'homme handicapé dit qu'un trottoir achalandé comportant des obstacles comme des poteaux, des rampes ou des affiches de commerce lui rend la vie difficile. Sans compter les piétons zombies qui ont les yeux rivés sur leur téléphone en marchant, ajoute-t-il. 2,1 mètres, c'est un minimum. On a besoin pour assurer une pleine accessibilité quelque chose autour de 2,5 à 3,8 mètres selon s'il y a une terrasse, un café, des marches. Une poursuite pour erreur médicale à Grand Sceau, c'est sur le site de Radio-Canada. Un homme de la région de Grand Sceau dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick poursuit des intervenants en santé après un accident qui lui a fait perdre la vue. Donald Deschaine de Drummond demande une compensation pour l'erreur médicale qu'il affirme avoir subie. 8 personnes ou entités sont visées par cette poursuite conjointe de Donald Deschaine et de sa femme Monique Deschaine. Dans la poursuite déposée en juin dernier, le couple accuse les défendeurs d'avoir fait preuve de négligence lorsqu'ils ont traité M. Deschaine. L'histoire a commencé en juin 2015 lorsque Donald Deschaine s'est servi de kérosène pour allumer un feu. Ses pantalons ont alors pris feu, brûlant son corps à 80 %. Après avoir été transporté à l'hôpital général de Grand Sceau, puis à l'hôpital régional de Saint-Jean par ambulance aérienne, l'homme dans la cinquantaine a finalement passé 4 mois dans l'unité de soins aux brûlés de l'hôpital Queen Elizabeth II d'Halifax. C'est à ce moment que le personnel soignant se serait rendu compte de sa cécité, qui aurait été causée par la mauvaise administration d'un traitement contre ses brûlures. La poursuite mentionne la perte importante de qualité de vie qu'a causée la cécité de Donald Deschaine. Camionneur de profession, il ne peut plus travailler ni s'occuper de tâches ménagères. Il a également dû déménager dans un foyer de soins puisque sa femme a dû retourner au travail et ne pouvait plus s'occuper de lui. Le couple poursuit les défendeurs en dommages et intérêts pour toutes les pertes financières occasionnées par la cécité de M. Deschaine, ainsi que pour la baisse de sa qualité de vie. Nous sommes entrés en contact avec Donald Deschênes, mais il a préféré ne pas accorder d'entrevue. Autisme Canada demande plus d'équité et de transparence dans les procédures entourant le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Autisme Canada demande à l'Agence du revenu du Canada d'appliquer ses critères d'admissibilité existants pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées de façon équitable, constante et transparente pour toutes les demandes reçues. Nous voulons un accès juste et équitable au crédit d'impôt pour personnes handicapées pour les Canadiens présentant un trouble du spectre de l'autisme, TSA, dit Dermot Cleary, président d'Autisme Canada. Autisme Canada ajoute ainsi sa voix à d'autres organisations de défense des droits des personnes handicapées qui ont exprimé leurs inquiétudes au sujet des incohérences dans le processus d'évaluation des demandes et des renouvellements du CIPH, le crédit d'impôt pour personnes handicapées.
Voilà, ainsi s'achève l'émission Le National. Je voudrais remercier toute l'équipe qui contribue à produire et à réaliser cette émission-là tous les vendredis. Alors, je cite tous les animateurs de l'émission, techniciens et recherchistes, ainsi que Mathieu Tessier, qui était aujourd'hui en régie. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine.